Chine Hebdo, Mathieu Jolivet sur BFM Business.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans Chine Hebdo, réussir en Chine, l'expérience d'une longue marche de 30 ans. C'est un livre qui vient de sortir aux éditions de L'Harmattan, un livre de Pierre Don qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous avait déjà entendu dans Chine Hebdo, vous étiez un patron de la semaine, vous avez fondé votre cabinet de conseil, Énergie 7. Cette longue marche de 30 ans, c'est la vôtre. C'est la vôtre, celle d'un patron passionné de Chine
et qui
aujourd'hui décide, après ses 30 ans d'expérience, cette longue marche personnelle, d'accoucher sur le papier de précieux conseils pour les entreprises que vous conseillez, que vous accompagnez aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à écrire ce livre ?
Eh bien, écoutez, effectivement, comme vous l'avez rappelé, mon originalité, c'est d'avoir passé 30 ans à travailler de manière continue avec la Chine. Ça a été d'abord exporter des produits français, européens vers la Chine, à l'époque où la Chine était très différente de ce qu'elle naît maintenant. Puis ça a été importé après les événements de 89 où les relations étaient plus compliquées avec la Chine. Donc nous avons importé des appareils de mesure. Et à partir de 92, fort d'une expérience de 9 ans, à la fois sachant exporter et importer, nous avons pensé qu'il était intéressant de prendre un troisième métier plus adapté aux conditions de l'époque, qui est celui de consultant, c'est-à-dire d'aider, de supporter les entreprises, principalement françaises, qui avaient pour souhait un jour de faire du business avec la Chine.
Et c'est sûr que cette activité de consulting, elle est peut-être de plus en plus importante aujourd'hui en Chine, à l'heure où on sent que l'environnement se complexifie, se densifie, les lignes bougent extrêmement vite, hein, on le sent bien dans Chine Hebdo. Un jour, on entend le discours des nouvelles autorités chinoises avec des annonces de réformes économiques majeures où tout le monde se dit « Ah bah tiens, est-ce que c'est les réformes les plus importantes depuis celles de Deng Xiaoping quand vous avez commencé à travailler il y a plus de 30 ans ?» Et puis l'autre jour, on entend la Chambre de commerce européenne en Chine tirer la sonnette d'alarme, là, il y a 10 jours, en disant « Ouh là là, mais attention, c'est la soupe à la grimace pour toutes les entreprises étrangères sur place. » On ne sait plus très bien comment naviguer là-bas.
C'est vrai. Et moi, une obligation que je me donne chaque jour, c'est également de faire de la veille économique. Parce que la Chine n'est plus un pays de révolution comme avec Mao, bien sûr, mais c'est un pays de mutation constante. Et si vous n'êtes pas, vous n'observez pas et vous restez pas dans le cadre d'une veille systématique, vous risquez d'avoir des choses qui vous échappent. Et je dis toujours, et d'ailleurs je l'explique dans ce livre, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Donc il faut être tout à fait au courant. Et d'autre part, effectivement, comme cela a été souligné de votre part également, la Chine prend quelquefois dans ses mutations, désoriente un petit peu les acteurs qui sont présents et qui doivent forcément s'adapter.
Alors Pierre, c'est une note opportunité exceptionnelle, et en même temps il y a un nouveau son de cloche qu'on entend ces derniers temps qui est de dire écoutez, la Chine en fait elle a une croissance moins forte que prévu, des salaires de plus en plus élevés, ce n'est plus forcément l'Eldorado que c'était. On entend même des entreprises dire finalement ça devient plus intéressant, moins coûteux pour moi de créer ma filière dans un pays en Europe ou je ne sais où, mais pas en Chine. Est-ce que ça c'est entre guillemets un effet de mode actuel, hein, ou est-ce que c'est toujours l'Eldorado que c'était?
Ce n'est plus l'Eldorado que c'était. Effectivement, les salaires augmentent beaucoup puisque ils ont augmenté sur les deux dernières années des taux de croissance de l'ordre de 15%, de manière inégale selon la Chine, parce que chaque province est un petit peu a une certaine autonomie et le SMIC de chaque province est décidé par la province elle-même et non pas à l'échelon national.
Et ça, c'est peut-être aussi une bonne chose puisque les salaires qui augmentent, bon, j'allais dire une bonne chose. Alors, déjà pour les ouvriers qui étaient peut-être sous-payés et pour cette bascule vers la consommation intérieure, alors, qui est aussi un des enjeux.
Exactement, et c'est ce que je voulais ce que je voulais vous dire. Vous savez, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et dans la moitié plein, la Chine est en train de faire une forte mutation pour essayer de passer un pays qui ne faisait surtout qu'exporter à un pays qui consomme. Donc plus les salaires s'élèvent, plus il y a des besoins, et comme ces besoins ne peuvent pas être totalement les réponses ne peuvent pas être totalement apportées par les entreprises locales, il est évident que les gens qui veulent vendre des produits qu'on ne trouve pas en Chine, qui apportent une certaine technologie, un luxe ou autre, ont des chances tout à fait remarquables de réussir. Moi je trouve que c'est au contraire, plutôt une opportunité. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est vrai, les entreprises qui fabriquaient des produits relativement basiques, qui étaient principalement axées sur une main-d'œuvre bon marché, ces entreprises, elles ont intérêt peut-être à aller ailleurs. Donc, elles vont dans des pays avoisinants, comme le Vietnam, le Cambodge. Certaines même reviennent en Europe ou aux États-Unis, mais je pense que c'est plutôt lié à ce type d'entreprise. Et puis il y a une autre possibilité en Chine, puisque la Chine est plus un continent qu'un pays, les gens vont vers l'Ouest. Ça répond à un désir du gouvernement, go West, pour essayer de développer cette partie de la Chine.
Pierre, donc, dernière question, je la pose à tous les chefs d'entreprise qui défilent ici dans ce studio de Chine Hebdo. Si vous ne deviez retenir qu'un seul conseil à donner aujourd'hui à un jeune ou moins jeune entrepreneur qui décide de sauter le pas, de franchir le pas et d'aller en Chine, ce serait quoi cet unique conseil?
Moi, je dirais qu'il faut surtout s'adapter aux conditions particulières du marché chinois. Moi, j'ai été heureux d'écrire ce livre en compagnie d'un garçon tout à fait remarquable qui s'appelle Armand Chen, qui est d'origine chinoise et français nationalité, qui a été grand patron en Chine. Il a dirigé Faurecia, numéro 2 de PSA. Il a dirigé Alstom Grid, et maintenant il est directeur exécutif d'une société agroalimentaire qui s'appelle Rocket, et il en est le directeur pour toute l'Asie. Et cette personne, qui est un ami, a réussi de manière fantastique, notamment avec Faurecia, où il a un jour pris une décision très difficile, puisque les managers, comme dans ces grandes sociétés, étaient souvent français, américains, allemands, anglais ou autres. Il a décidé de faire en fait que les managers deviennent chinois et que les expatriés, parce qu'on avait bien sûr besoin d'eux, deviennent plutôt des conseillers et des techniciens autour des managers. C'est-à-dire que donc la société s'est sinisée dans le sens que j'ai employé. Et je citerai un dernier exemple, c'est le patron de Louis Vuitton, qui a dit à un moment, on a réussi en Chine parce qu'on s'est adapté. Or, on aurait pu très bien penser que Louis Vuitton, de par la force de son image de marque qui est mondiale, connue et reconnue, évidemment,
ne s'adapte pas, vient avec ses procès.
C'était suffisant. Non, c'est ce qu'il a dit, et donc ça va tout à fait dans le sens indiqué.
Voilà, ce sera le conseil du chef. Adaptez-vous si vous voulez aller en Chine. Merci beaucoup, Pierre Don.
C'est moi qui vous remercie.
Auteur de Réussir en Chine, l'expérience d'une longue marche de 30 ans qui vient d'être publiée aux éditions de l'Harmattan.